France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette 14e émission de Mazette, quelle musique, émission que nous consacrerons à Alma Schindler, muse, égérie de la Vienne des arts et lettres des dernières années du 19e siècle jusqu'aux années 30, épouse puis veuve de trois des artistes majeurs de cette période, personnalité reconnue à Hollywood, Beverly Hills comme à New York, à partir des années 40 et jusqu'à sa mort en décembre 1964 à l'âge de 85 ans, est surnommée par ses amis pleins d'humour, américains comme viennois, la veuve des quatre arts. Trois ou quatre, nous y reviendrons, mais n'oublions surtout pas qu'Alma était elle-même, tout d'abord, offerte à la muse de la peinture et douée de dons musicaux peu communs.
Yeah.
Kennst du meine Nächte? Connais-tu mes nuits? Magnifique Lied, très lyrique, composé pour le piano et récemment orchestré avec une belle partie de piano, écrit sur un poème attribué à Rainer Maria Rilke. Le climat est onirique, frémissant, mystérieux, le texte presque surréaliste, comme la plupart des textes des 14 leaders composés par Alma Mahler qui ont été conservés ou retrouvés. Et donc, quelle que soit la date de leur publication, on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils ont été composés. Il y a des spéculations plus ou moins fulgineuses à ce propos. Pas de spéculation ici, simplement le plaisir et l'enthousiasme que suscite cette musique, réellement pleine de charme, de finesse, souvent de puissance, en particulier lorsqu'elle bénéficie de la plus-value sonore d'une orchestration réussie. Ne nous élevons pas au-dessus de notre condition, ne nous aventurons pas dans des territoires qui ne sont pas les nôtres, nous ne ferons pas un portrait d'Alman Schindler, nous ne serons pas sondés cœurs et reins. Pour en savoir plus, il faudra se reporter vers les ouvrages, fameux, peu fameux ou vraiment peu fameux, qui lui ont été consacrés. Nous allons nous contenter d'écouter de la musique, celle qu'elle composa et celle qu'elle inspira, en particulier celle qui lui fut dédiée par de nombreux artistes d'esthétiques très variées. Nous suivrons peu ou prou un fil chronologique, plutôt par commodité que par ambition biographique. Née en 1879, Alma est la fille du peintre Emil Schindler, personnalité nodale du tout-vienne des arts et lettres, notamment de l'avant-garde, en particulier autour du mouvement de la sécession. Elle était d'une beauté admirable, tout le monde a l'air d'accord, elle était reconnue comme la plus belle jeune fille de la capitale de la Kakanie, la monarchie impériale et royale Kaiserliche Königliche de l'Autriche-Hongrie au crépuscule du XIXe siècle. Alma fait tourner les têtes, sombrer les cœurs, et lors d'un voyage en Italie avec ses parents, au printemps de ses 18 ans, elle accorde son premier baiser à Gustav Klimt, 12 ans, avant que celui-ci peigne son célébrissime tableau doré, Le Baiser. Au tournant du siècle, Alma apprend des cours de composition auprès d'Alexander von Semlitsky, très talentueux compositeur et pédagogue, follement amoureux d'Alma, plein d'espérance. Il lui dédie ses Lieder opus 7, notamment ce très prémonitoire Irmeline Rose.
Seht, es war einmal ein König, der Geschütze reich gedient, und der Beste, der ihm eigen, hieß mit Namen Irmeline. Irmeline Rose, Irmeline Sonne, Irmeline alles, was schön.
Il était autrefois un roi qui possédait de nombreux trésors. Il savait que de toutes la plus belle était Irmeline, la rose, le soleil, la plus adorable de toutes. Toute la troupe des prétendants se rassemblait devant le château du roi et la courtisait avec de tendres mines et avec des mots doux et fleuris. Mais la princesse les chassait loin d'elle. Son cœur était froid comme l'acier. Des uns, elle se moquait de leur allure. Des autres, elle ricanait de la taille. Irmeline, la rose, le soleil, la plus admirable de toutes. Un des leaders dédiés à Alma, Partzemlinski, qui fit éclore son talent de compositrice, fut son amant au sens que l'on donnait à ce mot au XVIIe siècle, peut-être aussi à celui qu'il a pris depuis, mais que, à l'instar d'Irmeline, elle dépeint comme un gnome hideux, sans menton, sans dents, sentant le bistrot et mal lavé. Tiens donc. C'est à l'automne 1901, il y a presque exactement 120 ans, qu'Alma Schindler et le directeur de l'Opéra de Vienne, Gustav Mahler, se croisent lors d'une soirée chez Bertha Zucker Andelseps, belle-sœur de Georges Clemenceau. Alma capte le regard de Mahler et le fixe jusqu'à ce qu'il vienne à elle. Dir ist es traut, sur un poème de Rilke, près de toi tout va bien, dis-moi un mot d'amour mais pas trop fort, demeurons dans le calme, que personne ne sache rien de nous. Un lied d'Alma Mahler, d'apparence simple, plein d'effusion, mais sans mièvrerie, avec un certain élan donné notamment par l'appoggiature initiale de la mélodie. Les fiançailles d'Alma et Gustav ont lieu quelques semaines plus tard, après cette rencontre, avant Noël, et le mariage est célébré à Saint-Charles-Borromée dès le début mars 1902. Elle a 22 ans, il en a 41. Il lui a imposé de cesser de composer et d'être tout à lui et à sa carrière. Elle est tout à lui, elle l'accompagne à la création en Allemagne de la panthéiste 3e symphonie. Et à l'été de cette même année 1902, elle assiste à l'achèvement de la 5e symphonie, son adagietto, qu'il lui présente comme l'hommage de son amour. Et puis le dernier mouvement, avec le surgissement du choral final, qui la remplit d'enthousiasme, mais aussi d'une crainte sacrée. Bruckner, peu cela, mais pas toi. Dès novembre 1902, naissance d'une première fille, Maria, c'est le second prénom d'Alma. À l'été 1903, pendant les vacances de l'Opéra de Vienne, retirée dans sa villégiature en Carinthie, au bord du Wörthersee, un lac aux eaux bleues-vertes par-delà lequel s'élèvent les sommets alpins, Mahler entame la composition de sa 6e symphonie. Un matin, ayant esquissé le premier mouvement, il déboule de son cabanon de composition qui domine le lac et la villa et dit à Alma « J'ai essayé de t'incarner dans un thème. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais il ne te reste qu'à l'accepter tel qu'il est. » Le thème d'Alma, second thème du premier mouvement de la 6e symphonie de Gustav Mahler, grand thème en fa majeur, sur une mélodie ascendante, thème lumineux, d'un élan, me semble-t-il, irrésistible, plutôt joyeux, au sein d'une œuvre qui sera appelée tragique, notamment en raison de son final grandiose, mais aboutissant au désastre et à l'anéantissement. Alma est subjuguée par ce thème, qu'il a dépeint avec charme et passion, mais au cours de cet été 1903, l'interdiction de composer l'insupporte de plus en plus. Elle en arrive à regretter les cours de Zemlinsky. Là-haut, Sommernacht, douce nuit d'été, nous restions embrassés dans la nuit obscure, notre vie n'était-elle qu'errance et recherche, jusqu'à ce que dans les ténèbres, amour, ta lumière surgisse. un lied d'Alma Mahler sur un poème de Gustav Falke qui a été orchestré par Colin et David Matthews. Après ce thème d'Alma, c'est la 8e symphonie dont Gustav Mahler offrira la dédicace à Alma. Le fracas publicitaire lors de la création à Munich à la fin de l'été 1910 a baptisé cette œuvre Symphonie des Mille, nom qui lui est resté jusqu'à présent, même si avec 300 interprètes seulement, on arrive déjà à en faire quelque chose de présentable. On serait évidemment tenté d'écouter intégralement ce chef-d'œuvre en deux parties, le Veni Creator, hymne latin qui date du début du 9e siècle et qui est une vigoureuse invocation à l'Esprit Saint. Puis la fin somptueuse, fin mythique et mystique du second Faust de Goethe qui s'achève par les paroles fameuses confiées au Chorus Mysticus, l'éternel féminin nous attire toujours plus haut. Mais comme disait Armand Panigel, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas cette diffusion intégrale. Et donc nous allons nous contenter de l'écoute au milieu de la deuxième partie du chœur des pénitents et de la soprane qui incarne la grande pénitente Marguerite Gretchen. À toi l'intouchable, il n'est pas défendu que ceux qui sont trop faciles à séduire puissent approcher en confiance, portés par leur faiblesse. Ils sont difficiles à sauver. On ne saurait mieux dire, vu la suite de l'histoire. L'été 1910 voit la composition de la 10e symphonie. et le 12 septembre, la création de la 8e symphonie dont nous venons d'entendre un extrait. Mais cet été fut aussi celui d'une profonde crise au sein du couple, déjà ébranlée par la mort de leur fille aînée en 1907, et par de multiples drames et difficultés privées et publiques, ainsi que par la frustration de plus en plus insupportable d'Alma d'avoir abandonné toutes ses aspirations artistiques, en musique comme en peinture, pour être épouse, mère et au service d'un artiste, au firmament de son art, certes, comme compositeur, comme interprète, mais aussi autocrate qu'elle vénère et déteste à la fois. Dans une scène malheureusement digne d'un bon Phèdre, Mahler reçoit une lettre qui lui a été adressée par erreur ou à dessein, qu'en sait-on, mais qui est en fait destinée sans le moindre doute à Alma et écrite par son jeune amant, l'architecte Walter Gropius, le futur fondateur du Bauhaus, l'école d'art qui, depuis Weimar, va dominer l'entre-deux-guerres. À la lecture de cette lettre très explicite, Mahler est terrassé et de sa villégiature dans les Dolomites, il s'en va consulter Sigmund Freud à Leiden en Hollande. Ils ont une très longue conversation promenade de 4 heures, dont ils ne retiennent pas du tout la même chose l'un et l'autre, mais dont Mahler revient tout à la fois joyeux et dévoré par le remords. Ayant recouvré sa capacité d'aimer passionnément et d'admirer Alma, il lui propose même de l'aider à mettre au point en vue de la publication des leaders qu'elle avait composés avant son mariage. Nous écoutons Anstrom, Anstrom ça veut dire déchaînement, lied composé par Alma sur un poème de Demel. Tu sens bien que je bouillonne à l'intérieur et si la révolte éclate à l'extérieur, qu'elle engloutit ta paix, tu trembleras et tu ne m'en voudras pas.
Muss es raus und sucht und sucht. Fühlst ja, wie all mein Inneres brandet und bin auf der Aufruhr bricht.
Le manuscrit de la 10e symphonie de Mahler porte les traces de cette crise de l'été 1910 et de cet élan renouvelé et passionné de Gustav pour Alma. Ainsi, à la fin du 5e et dernier mouvement, les dernières pages de la particelle c'est la partition esquissée de cette dernière œuvre inachevée de Mahler, cette particelle donc contient des exclamations déchirantes qui révèlent le désarroi existentiel et la passion de Mahler. La musique le dit aussi avec beaucoup d'émotion. Ainsi, dans les toutes dernières mesures de ce final, musique qui est faite de consolation, qui approche le silence, surgit soudain un grand élan, presque un cri déchirant des cordes avec un saut de 13e ascendante vers l'extrême aigu, puis un retour vers la paix et le silence. Et c'est à l'endroit même de ce cri, et peut-être que ceux qui ont déjà vécu auprès d'un parent ou d'un proche, le moment extraordinaire et bouleversant du dernier souffle d'un mourant ne pourront pas s'empêcher d'y penser. Donc c'est au moment même, à l'endroit même de ce cri sur la partition, que d'une écriture exaltée, Mahler note « Vivre pour toi, mourir pour toi, Almschi », l'affectueux surnom qu'il donne à Alma. Mahler meurt quelques mois plus tard en mai 1911 et à présent je vous propose que nous nous laissions guider par les notes de l'éminent et très regretté Henri-Louis de Lagrange. Henri-Louis de Lagrange consacra sa vie à la connaissance de Mahler et de son œuvre et jamais il ne se départit d'une véritable honnêteté intellectuelle foncière à l'égard de la personnalité complexe que fut Alma qu'il rencontra de nombreuses fois après la Seconde Guerre mondiale. Pendant son deuil en 1911, Alma entretient une correspondance régulière avec Walter Gropius, son amant. Il lui rend visite à Vienne durant l'été dans l'espoir qu'elle se consolera bientôt de la mort de Mahler et qu'elle acceptera de vivre avec lui. Elle refuse. L'année suivante, en 1912, Alma rencontre Oskar Kokoschka et elle lui propose de faire d'elle un portrait. Au printemps de 1913, dans une exposition à Berlin, Walter Gropius reconnaît Alma dans un tableau de Kokoschka, la fiancée du vent. La fiancée du vent représente un couple d'amants allongés comme suspendus dans un grand tourbillon de draps et portés par un étrange nuage à travers une véritable tempête. Gropius rompt avec Alma, qui elle-même ignorait l'existence de ce tableau et le fait qu'il allait être présenté dans une exposition. Alma décide de ne plus habiter avec le jeune peintre, mais sans pour autant vouloir rompre. L'année suivante, en 1914, Alma reçoit la visite de Hans Pfitzner, qu'elle connaît bien, et qui lui fait une déclaration d'amour. Elle refuse à nouveau et repousse ses avances. Entre-temps, elle a repris contact par lettre avec Walter Gropius, qui est mobilisé depuis le début des hostilités. À l'instigation d'Alma, Oskar Kokoschka décide de s'engager. En février 1915, Alma rejoint Gropius à Berlin, tout en poursuivant sa correspondance avec Kokoschka. Le 18 août 1915, Alma épouse Gropius en grand secret avant qu'il ne reparte au front. Le 5 octobre 1916, c'est Manon Gropius qui naît, qui mourra de la poliomyélite 18 ans plus tard, en 1935, et qui sera la dédicataire posthume du concerto pour violon à la mémoire d'un ange d'Alban Berg. En 1917, Alma fait la connaissance du jeune et déjà célèbre poète Franz Werfel. Elle nourrit tout de suite de vifs sentiments pour lui. En réalité, sa première rencontre avec le poète date de quelques années plus tôt, lorsqu'elle a mis en musique Der Erkennen de celui qui a conscience. Nous repoussons tout ce qui nous aime et aucune peine ne peut adoucir notre froideur. Mais je sais une chose, jamais rien ne sera à moi. Mon seul bien est d'en avoir conscience. Zu weinen Le 2 août 1918, un petit garçon, Martin, né de manière prématurée, il est le fils de Werfel et d'Alma. Et là, à nouveau, un épisode à la Feydeau. En permission à Vienne, Walter Gropius découvre par hasard qu'Alma aime Franz Werfel et comprend que Martin n'est pas son fils. En 1919, le 15 mai, Martin meurt à l'âge de 9 mois et Alma veut se séparer de Gropius. Il lui accorde le divorce et la garde de Manon. En 1920, Ravel vient de composer la valse, grand poème chorégraphique apothéose archétypale de toutes les valses de Vienne. Ravel espère que la valse soit créée à Vienne. Par l'entremise du compositeur et chef d'orchestre Casella, qui est grand admirateur de Mahler, Ravel s'installe chez Alma, où il habite 3 semaines seul avec elle. La défiance connue de Ravel à l'égard des féminités expansives, pour reprendre l'expression de Marcel Marna, suffit-elle à expliquer le récit étonnant de ce séjour que va donner Alma Mahler dans ses mémoires? Elle relève le comportement mystérieux de Ravel, sa grande beauté, sa mise éclatante lorsqu'il apparaît le matin fardé et parfumé pour le petit déjeuner. Peu importe. Profitons-en surtout pour écouter un peu d'excellente musique française ou franco-viennoise, si l'on veut, la deuxième partie de la valse de Ravel par l'Orchestre National de France et de Radio France, sous la baguette exaltée de Leonard Bernstein lors d'un concert devenu mythique de septembre 1975.
Thank you.
En 1925, nouvelle dédicace d'une œuvre majeure du XXe siècle, Wozzeck d'Albanberg, fervent admirateur de Gustav Mahler, et avec son épouse Hélène, grand ami d'Alma, de ses enfants et de Franz Werfel aussi. Écoutons la première scène du troisième acte de Wozzeck. Marie, qui sait que Wozzeck connaît sa relation avec le tambour major, est torturée par le remords. Seule dans sa chambre avec le jeune enfant, elle lit la Bible, parabole de la femme adultère sauvée et pardonnée. Elle chante une comptine pour endormir l'enfant, une histoire justement d'enfant orphelin de père et mère, prémonition de la mort, espoir du salut, une musique captivante avec un orchestre très malérien, tous les types de vocalités du parler et du parler chanté jusqu'au bel canto. Enregistré sur le vif, nous écoutons la grande Hélène Farrell, qui est une Marie bouleversante, et l'orchestre philharmonique de New York est dirigé par Dimitri Mitropoulos, lui aussi tout à fait enflammé.
Come! Yes, it! Wait!
Le 6 juillet 1929, Alma épouse Franz Werfel. En mars 1938, Alma et Franz Werfel quittent précipitamment Vienne au moment de l'Anschluss. Et après quelques mois à Paris, ils achètent une maison à Sanary-sur-Mer, près de Toulon, et les deux époux passent là près de 2 ans, avec quelques intermèdes parisiens. Après l'invasion de la Belgique et de la France en mai et en juin 1940, ils tentent de gagner l'Espagne en passant par Bordeaux, Biarritz, Hendaye, mais ils sont contraints de rebrousser chemin. Et en passant à Lourdes, Franz Werfel fait le vœu d'écrire un roman sur Bernadette Soubirous et le mystère des apparitions, s'il réussit, avec Alma, à gagner les États-Unis. Retour à Marseille pour obtenir un visa américain et en septembre, ils vont à Perpignan et puis passent la frontière espagnole à pied, rejoignent le Portugal, s'embarquent pour New York. Werfel écrit alors Le Chant de Bernadette qui devient un best-seller immédiatement et dont Hollywood se saisit pour en faire une adaptation en 1943 sous le titre initial Le Chant de Bernadette. C'est alors qu'entre en scène Igor Stravinsky, peu malérien dans l'âme, mais voisin des Werfel, et qui entretiendra une relation amicale à Los Angeles comme à New York avec Alma Mahler jusqu'à la mort de celle-ci. La Metro-Goldwyn-Mayer sollicite Stravinsky pour écrire la musique du film. Tout cela n'ira pas très loin, mais Stravinsky intégrera dans sa symphonie en 3 mouvements de 1945 la musique qu'il avait préparée, mais qui n'avait pas été utilisée, pour l'apparition de la Vierge dans le film Le Chant de Bernadette, que nous écoutons à présent. Sur le coup de 3 heures, nous retrouvons notre petit feuilleton « Liebst du um Schönheit, m'aimes-tu pour ma beauté ?» Gustav Mahler écrit les Rückertlieder en 1901, lorsqu'il est au bord du lac du Wörthersee, un an avant le premier séjour d'Alma et Gustav ensemble après leur mariage dans la villa. En 1901, il a composé 4 lieder et lorsqu'il revient à la fin de juin 1902, dans le secret le plus absolu de son cabanon de composition, il se lance dans l'écriture du Lied « Liebst du um Schönheit, m'aimes-tu pour ma beauté ?». Et les circonstances de la composition de ce Lied, ou plus exactement de sa découverte par Alma, sont connues grâce au journal intime de celle-ci. Un jour de juillet de la même année, il a mis ce texte en musique, il veut en faire un tendre message d'amour, il le cache dans le manuscrit de la partition de Siegfried qu'Alma a coutume de déchiffrer. Mais pendant les jours qui suivent, elle n'ouvre pas son piano ni la partition et Gustav est très déçu. Et donc il finit par provoquer la découverte en lui disant qu'il faudrait se mettre à déchiffrer cette partition de Siegfried. La feuille manuscrite tombe du volume, Alma la découvre, c'est le premier chant d'amour écrit pour elle par Gustav. Ils se mettent au piano et le jouent ensemble. La dernière phrase, « Liebe mich immer, dich liebe ich immer, immer da »,« Aime-moi toujours, je t'aime toujours, pour toujours », bouleverse Alma jusqu'au fond de l'âme. Elle joue, rejoue le lied un grand nombre de fois et dans son journal le soir, elle note « J'en ai presque pleuré. Quelle profondeur il y a chez cet homme. Comme je manque d'âme. Souvent, je me rends compte à quel point je suis peu de choses et je possède peu de choses en comparaison de son incommensurable richesse. » Pour terminer ce deuxième épisode, eh bien nous écoutons une version avec orchestre, c'est-à-dire pas la version originale de Mahler, une version chantée par Marilyn Horn, une version un peu hollywoodienne, si j'ose dire, gorgée de soleil, absolument magnifique, une version enivrante de « Liebst du Schönheit ».
Ich liebe.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Reprenons notre déambulation en suivant Alma Mahler. Nous sommes maintenant en 1945. Werfel meurt d'une attaque cardiaque le lendemain du jour où il a écrit la dernière ligne de son roman d'anticipation « L'étoile de ceux qui ne sont pas nés ». C'est en 1945 également que Erich Wolfgang Korngold achève son très lyrique concerto pour violon en ré majeur qui réemploie les thèmes de certaines de ses musiques de films. Et c'est à Alma Mahler que l'œuvre est dédiée. Premier mouvement de cette très belle œuvre, le concerto pour violon de Korngold, interprété par son créateur, le grand Yasha Heifetz. Marina Schisch dirait mieux que moi la séduction extraordinaire de cette sonorité et de cette tenue de ligne mélodique.
Thank you.
Pendant l'été 1947, Alma se rend à Vienne pour mettre en ordre ses affaires et un petit film d'actualité très émouvant, me semble-t-il, montre son arrivée à l'aéroport de Vienne. En 1952, elle s'installe définitivement à New York et se rend très active dans la promotion des œuvres de Gustav Mahler. En 1958, Benjamin Britten, qui voit en elle le lien vivant avec deux compositeurs qu'il chérit particulièrement, Mahler et Berg, lui offre la dédicace de son quatrième et dernier cycle de mélodies avec orchestre, le très beau Nocturne pour ténor et ensemble instrumental. Nous écoutons, dirigé par le compositeur et chanté par son compagnon Peter Pears, la septième et avant-dernière mélodie, What is more gentle than a wind in summer? Qu'est-il de plus suave qu'une brise d'été, si ce n'est toi, soleil, qui ferme doucement nos yeux?
What is more gentle than a wind in summer? What is more soothing than the pretty hummer that stays one moment in an open flower and buzzes cheerily from bough to bough? What is more tranquil than a musk rose blowing in a green island far from all men's knowing? More healthful than the leafiness of days? More secret than a nest of nightingales? More serene than Cordelia's countenance? More full
waltz than a high romance.
C'est en décembre 1964 qu'Alma meurt à New York. Elle sera inhumée dans la même tombe que Manon Gropius à Vienne. La correspondance de 15h21. Nous prenons la correspondance de 15h21 qui va nous amener à faire un très grand périple. Nous partons d'Hollywood en 1934. 1934, Ernst Lubitsch tourne son 10e film parlant. Il tourne en anglais et en français simultanément pour la Metro-Goldwyn-Mayer. C'est la Veuve Joyeuse. Le comte Danilo défile joyeusement dans la capitale du royaume de Marchovia. Toutes les femmes du royaume sont aux fenêtres, absolument conquis par ce comte Danilo, qui n'est autre que Maurice Chevalier. Girls, 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 pas besoin de traduire. Un humour fou, un chic absolu.
Let us gaze in the wine while it's wet. Let's do things that we live to regret. Let me dance till the restaurant world with the girls, 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 girls. Where there's wine and there's women and song. It is wrong not to do something wrong. When you do something wrong, you must do something right. And I'm doing all right tonight.
Trente ans plus tard, toujours en Californie, quelques mois à peine après la mort d'Alma Mahler, Tom Lehrer se met à parler d'une nécrologie qu'il a lue récemment. C'est celle de Alma elle-même, la nécrologie la plus épicée, la plus audacieuse que je n'ai jamais eu le plaisir de lire. Celle d'une dame nommée Alma Mahler, Gropius Werfel, qui avait au cours de sa vie réussi à acquérir comme amant pratiquement tous les meilleurs créateurs d'Europe centrale. Et se met à chanter une chanson sur la plus jolie fille de Vienne. Alma était aussi la plus intelligente, avec un refrain qui a connu une certaine célébrité. « Alma, dis-nous, toutes les femmes modernes sont jalouses. Avec quelle baguette magique as-tu pu attraper Gustave, Walter et Franz ?»
The loveliest girl in Vienna was Alma, the smartest as well. Once you picked her up on your antenna, you'd never be free of her spell. Her lovers were many and varied. From the day she began her begging, there were three famous ones whom she married, and God knows how many between. Alma, tell us, All modern women are jealous. Which of your magical wands got you Gustav and Walter and Franz?
Nous traversons les États-Unis et l'Atlantique et nous retrouvons le chic français. C'est la veuve de génie, chantée par Hélène Delavaux. Tout est dit.
Je suis l'épouse d'un grand artiste. C'est là ma fonction, mon emploi. Ma vie n'est pas très fantaisiste. La fantaisie, c'est lui qui l'a. Je l'accompagne dans les cocktails et je m'alanguis sur son bras. Ça ne paraît pas essentiel. Je ne fais rien, mais je suis là. Bien sûr, il a un grand talent, mais il faut bien qu'on le soutienne. Et pour son épanouissement, il a fallu que j'intervienne. Alors je suis intervenue dans son atelier, ses nuits blanches, à tout moment, quelquefois nu. Je l'ai serré de peur qu'il flanche. C'est ainsi depuis des années, j'ai imposé mon influence. Et la presse a bien souligné quelle a été mon importance. Je lui filtre le téléphone, je planifie son agenda. Je dis qu'il n'y est pour personne et son inspiration c'est moi. Je suis sa muse et son repos, son grenier, son coffre à épices, la proue de son génie à bâton et la grand-voile protectrice. Mais ce qui tente à m'inquiéter et me rendrait parfois morose, c'est que pour la postérité, je voudrais être quelque chose pour tout, pour voir enfin sortir de l'ombre où je végète à son côté et révéler au plus grand nombre quelle est enfin la vérité. Quand enfin je serai sa veuve, j'apparaîtrai dans la clarté. Sentir et tout honneur pour l'inédite volupté.
Comment faut-il s'y prendre pour devenir une veuve de génie? Eh bien, à une heure de grande écoute, à laquelle les enfants ne font pas tous la sieste, nous n'allons pas diffuser l'intégralité de la chanson de Juliette, la veuve noire, même si c'est tentant. La première strophe peut-être suffira à créer l'appétence de ceux qui voudront en savoir plus et découvrir ou redécouvrir ce petit bijou d'humour noir.
Il est 20h, j'attends qu'il meure. Notre bonheur était un leurre. Comme ça coûte cher de divorcer, c'est bien plus simple de le tuer. J'ai mélangé au rôti de porc de l'aspirine, du médiator. Ça fait des morts propres et nettes, comme je l'ai vu sur internet. Puisqu'il a l'estomac fragile, qu'il est cardiaque et hémophile, c'est le crime parfait tout en douceur. Il est 20h, j'attends qu'il meure.
Alors, rattrapons-nous avec le vrai chic viennois, le vrai chic viennois de Vienne, avec Elisabeth Schwarzkopf et son glamour parfait, et avec tout le charme d'un Danilo qui est Erich Kunz. C'est un extrait de La Veuve Joyeuse, la vraie veuve joyeuse de Franz Lehár, dirigée par Otto Ackermann.
Thank you. klar siehst, wahr siehst, wahr.
Du hast mich lieb.
France Musique, Mazette, quelle musique? Jean-Yves Larouturou.
Une pièce du 9e ordre des pièces de François Couperin, Le Petit Deuil ou Les Trois Veuves. Les amis américains d'Alma Mahler étaient tout de même un peu malicieux, trois fois veuve et non pas quatre, mais c'est vrai, muse et veuve de la musique, de l'architecture, de la littérature et à travers son propre art et celui de Kokoschka notamment, de la peinture. L'émission se termine donc et nous quittons en regret Alma, toutes les splendeurs que nous avons entendues et toute la théorie des extraordinaires compositeurs et artistes qui ont peuplé sa vie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, troisième dimanche du mois, nous serons donc sur une thématique très vie quotidienne, vie de tous les jours, et nous nous interrogerons, faut-il fêter les anniversaires ? Sur la page Mazette, quelle musique du site de France Musique, sur la page Sur le coup de 3h et sur la page La correspondance de 15h21 également, vous retrouverez toute la programmation musicale d'aujourd'hui, la réécoute, le podcast de cette émission et de celles qui l'ont précédée. Dans le périple d'aujourd'hui, périple au long cours de Vienne à Hollywood et retour à Vienne, la fine équipe avec moi rassemblée Nelly Portal, Philippe Mercher et rien moins que Laurent Lefrançois. Merci à tous, excellente semaine sur France Musique et tout de suite, dans quelques secondes, Félicien Bru pour Brut d'accordéon.
À réécouter sur francemusique.fr.